Complexe parce que c'est un article du Journal de Montréal qui nous a mis la puce à l'oreille, à savoir des personnes ayant des handicaps plus ou moins visibles qui peinent à se trouver de l'emploi. C'est une maman qui disait « Moi, mon fils de 27 ans, qui est atteint du syndrome de la Tourette, Guillaume Guévremont, pourtant, il avait plein de jobs d'une place à l'autre. Vous regardez son CV, puis ça allait bien. Mais là, tout à coup, il éprouve des difficultés dans sa vie et non, les gens ne veulent pas l'embaucher, il n'y a pas de programme pour lui. » Qu'est-ce qu'on fait? C'est la question qu'on va poser aujourd'hui à Michael Dulin ou Dolan, Michael?
Dulin.
Dulin, c'est parfait. Il est coordonnateur à l'étape, donc un service d'intégration et de maintien en emploi pour les... J'imagine personne ayant des... c'est vraiment Paul. Et également Alain Tremblay, qui lui est directeur de l'Association québécoise du syndrome de la Tourette. Alain, tiens, dites-nous bonjour pour qu'on sache la différence entre Alain et Michael.
Oui, bonjour.
Oh, c'est... Michael, tiens, on va travailler sur l'accent. Si vous reconnaissez un accent qui n'est pas celui de Terrebonne, dites-vous que c'est Michael. Parlons de M. Guévremont, sans nécessairement entrer dans son dossier personnel, mais est-ce que son cas est rarissime? Est-ce qu'ils sont nombreux à, malheureusement, avoir de la difficulté à être soutenus lorsqu'il souhaite travailler? Commençons par Michael.
Ça dépend beaucoup. Premièrement, merci de m'inviter pour l'émission. Puis, pour répondre à votre question, ça dépend. Ce n'est pas vraiment une réponse très, très précise, mais parce que ça va être difficile de répondre en généralisant. Il y a des personnes qui vont effectivement éprouver des difficultés à se maintenir en emploi. Et pour d'autres, ça va être plus facile. Puis, chaque situation est très différente. C'est sûr que nous, à l'État, puis dans les services comme le nôtre, on a plusieurs mesures qui sont là pour aider les personnes à se maintenir en emploi. On a des personnes qui peuvent avoir accès à des mesures d'Emploi Québec ou du fédéral pour se maintenir en emploi. Puis ouais. On a depuis quelque temps aussi une agente d'intégration qui peut venir en fait sur les lieux d'emploi pour aider la personne à trouver des stratégies pour que ça fonctionne mieux, peut-être des fois sensibiliser aussi les employeurs puis les contremaîtres pour que les personnes puissent s'intégrer et se maintenir en emploi, parce que c'est vrai que c'est parfois une difficulté la question du maintien en emploi, mais depuis 2 ans presque, on a justement des nouvelles solutions pour régler ça.
Ah, on y reviendra peut-être. Mais en même temps, j'ai l'impression, Alain, que si la personne est embauchée, il y a eu entrevue d'embauche, on a peut-être remarqué, je ne sais pas moi, si la personne a des tics, si la personne s'exprime de façon, disons, inhabituelle. Donc, si on l'embauche, pourquoi le maintien à l'emploi devient difficile? Il me semble que la barrière la plus grande... et l'entrée dans une entreprise, je me trompe ou?
Effectivement, premièrement, merci aussi de m'avoir invité à l'émission. Mais l'entrée en fonction, effectivement, l'entrevue est une source d'anxiété, tout à fait, qui peut être plus ou moins grande chez certains individus. Pour les gens qui vivent avec le syndrome de la Tourette, bien entendu, la manifestation des tics se fait de différentes façons et c'est très cyclique aussi. Dans le cadre de l'emploi même, si jamais la personne doit rencontrer des gens, faire face aux clients, souvent il y a une manifestation de tics qui peut se manifester à plus facilement, puis ce qui fait que c'est plus difficile pour la personne. Alors elle va souffrir d'anxiété, d'angoisse, et puis tout ça qui va faire en sorte que ça va être difficile.
Michael, vous l'avez précisé, il y a des personnes qui vivent avec un handicap invisible qui sont soutenues financièrement par différentes mesures. Il y en a d'autres qui ne le sont pas. Est-ce que les critères sont trop sévères pour départager l'un de l'autre?
Ça dépend des mesures. Là, quand on parle de critères, on peut faire référence au CIT notamment, où il y a effectivement certains critères. L'article en fait mention, donc, que la personne doit respecter ou doit correspondre aux critères de la définition de la personne handicapée. Mais il y a d'autres mesures qui existent qui n'exigent pas cette, que la personne corresponde à cette définition-là. Puis il y a aussi il y a d'autres mesures qui existent, mais effectivement, cette définition-là existe pour certaines mesures. Donc ça peut être limitant, ouais, ouais. Mais il y a souvent d'autres solutions. Puis même sans avoir des aides financières, d'avoir une personne qui peut aider à l'intégration, qui peut accompagner, que ce soit par la présence d'un intervenant, ça peut beaucoup aider aussi les premières semaines, mmh. les premiers mois. Puis c'est souvent déterminant ensuite, parce que dès qu'on met en place le plus tôt possible des stratégies qui vont permettre à la personne de s'intégrer, de bien intégrer son poste, ben souvent ça va être très, très gagnant à long terme.
Parlons-en des autres solutions, parce qu'il me semble, bon, je parle d'un, personnellement, là, chez nous, où je fais l'épicerie, il y a une caissière qui vit avec le syndrome de la Tourette. Et j'avoue qu'il y a un inconfort. On n'est pas toujours sûr si elle comprend la facture. Il y a des problèmes. Donc, je me dis, il me semble que l'employeur doit avoir un incitatif pour compenser. Sinon, ces gens-là, ils n'ont pas de chance de garder leur emploi. Donc, quelles sont les autres solutions, mis à part le CIT?
Je ne sais pas pour votre question, mais...
Non, en général... Dans le sens,
oui, c'est ça.
Je dis, s'il n'y a pas d'incitatif, il me semble que ça joue contre la personne qui veut rester en emploi.
Mais ça dépend aussi si on a dès le début un bon mariage entre le profit de la personne et les exigences de l'employeur. Après, si la personne a un handicap visible, bon, là, ou perceptible comme votre caissière, mais qu'en soi, elle est capable de faire le travail comme n'importe quel autre, c'est une question de... peut-être de prime abord, où on est un peu surpris par la personne parce qu'elle a une différence, mais en soi, si l'employeur constate qu'elle réussit à faire son travail correctement, peut-être que l'employeur est satisfait par rapport à ça, peut-être que l'employeur peut avoir une sensibilité aussi à l'inclusion des personnes ayant un handicap.
Mais je repose ma question parce que le temps file. Est-ce qu'il y en a d'autres mesures que le CIT?
Oui, il y a une mesure de faire... qui est du fédéral et qui est administré par Sphère Québec maintenant, puis qui permet aux personnes d'avoir une aide pendant un an, par contre pas renouvelable. Il y a d'autres mesures aussi de différentes organisations pour proposer aux personnes d'avoir des stages dans des institutions aussi pour développer leur expérience et leurs compétences professionnelles.
Alain, lorsqu'une personne, je connais pas Guillaume, mais disons, Guillaume, entre autres, a eu des creux émotifs dans sa vie, donc il a été obligé de quitter l'emploi, et là, ça a été difficile pour lui de retrouver un emploi. Et évidemment, moins tu travailles, plus ça va mal émotivement. Donc, ça prend une main pour le sortir du puits. Qu'est-ce que vous faites, vous, à l'association, pour aider ces gens-là?
Oui, souvent la problématique peut tourner en spirale, puis effectivement se détériorer. D'abord, faut-il que la personne vienne nous voir aussi pour nous informer qu'elle a besoin d'aide. Nous, on peut offrir du support, du soutien. On a des groupes de soutien, on a des groupes de pairs aidants aussi où on peut accompagner la personne. On peut aussi donner une session de formation ou d'information plutôt aux collègues de travail sur les lieux même du travail pour sensibiliser un peu les collègues par rapport à la situation. Donc ça, c'est les choses que l'on peut offrir, mais d'abord, faut-il que la personne se manifeste, vienne nous voir puis nous demande de l'aide.
Mais est-ce que vous, en général, vous constatez que les gens qui arrivent à une entrevue d'embauche avec une mesure d'employabilité versus ceux qui n'en ont pas à offrir à l'employeur potentiel sont avantagés, désavantagés, ou ça ne fait pas une si grande différence que ça, parce que souvent, les employeurs, ils en ont de l'argent. Tout ce qu'il faut, c'est de la volonté.
Oui, en effet, c'est sûr que au niveau d'un programme d'employabilité, ça peut être un incitatif pour l'employeur, décidément. Par contre, il y a des emplois où il y a des employeurs qui exactement aiment bien faire l'intégration de ces gens-là sans appui financier comme tel. Mais c'est toute une question de compréhension, puis une question aussi de connaître là, l'environnement dans lequel la personne va évoluer, puis essayer de donner de l'information à ceux qui vont entourer cette personne-là aussi.
Sinon, qu'est-ce qui pourrait être fait qui n'est pas fait encore? Et là, je pose la question à vous deux, là. Est-ce qu'il y a des idées, des fois, vous discutez entre organismes ou bien avec différents ministères ou vous entendez des échos des employeurs et les employeurs vous disent « si ça existait, ça nous aiderait ».
Je peux commencer.
Oui, allez-y, Michael.
C'est une bonne question, mais déjà d'avoir, comme je parlais tout à l'heure, un peu, on a un nouveau projet avec notre groupement, avec le ROSEF, qui est d'avoir des agents d'intégration. Moi, je pense que c'est déjà une grande avancée dans le sens où ça permet d'avoir l'aide d'une personne qui vient en emploi pour aider à l'intégration. C'est pas toujours nécessaire, mais quand c'est possible, puis quand la personne en a le besoin, je pense que ça peut vraiment jouer une grande différence pour les premières semaines, les premiers mois, aider la personne à acquérir des bonnes habitudes par rapport à son emploi, puis en même temps peut-être rassurer l'employeur sur des bonnes stratégies à mettre en place, puis à aider l'employeur à faire en sorte que l'intégration se passe dans les meilleures conditions. Donc, moi, je pense que c'est déjà c'est un bon ajout qu'on a dans notre offre de service.
Est-ce qu'on a un...
Oui,
Alain, allez-y.
Effectivement, souvent, c'est de l'accompagnement que la personne a besoin aussi. D'offrir cette possibilité d'intégration serait décidément une bonne chose. Est-ce qu'on parle d'assouplir des normes du programme? Peut-être. Faudrait considérer effectivement cette chose, mais certainement d'aider la personne dans son quotidien. Nous, avec les pères aidants, disons, c'est quelqu'un qui vit la même situation ou qui a vécu la même situation par le passé, qui a peut-être développé des façons de compenser pour l'aider. Donc, on peut transmettre cette information-là à quiconque le demande. Donc, c'est certainement, on est là pour les gens qui vivent avec le syndrome, pour les aider dans leur quotidien.
En tout cas, on sent vraiment dans l'article, et bien sûr, c'est un exemple, mais que la mère de Guillaume, elle, trouve vraiment difficile de ne pas avoir, disons, de mesures fiscales ou financières pour soutenir la recherche d'emploi de son fils.
Oui. Mais souvent, vous savez, aussi, tout passe par le médecin traitant aussi, hein. Je veux dire, si le médecin traitant ne juge pas que c'est un handicap qui est problématique, ben, ils vont pas nécessairement donner de directives spécifiques ou d'informations ou de un papier, comme on dit. Et des fois, c'est là qu'est la situation. Alors, il faut vraiment avoir une bonne conversation avec le médecin.
C'est sûr.
Et puis, définir avec le médecin comment on pourrait approcher cette situation-là. Puis une fois qu'on a ça, ben à ce moment-là, on peut déposer les demandes là, auprès des incitatifs qui sont en place.
Ouais, c'est intéressant. Alain Tremblay, Michael Dulin. Michael, en terminant, oui?
Oui, ben non, je faisais du pouce un peu. C'est un bon point parce que des fois, les médecins ont peur que le document aille la régie des rentes ou Emploi Québec. Puis des fois, les médecins remplissent pas forcément pour les bonnes informations parce qu'ils ne savent pas à qui ça va être destiné. Donc, effectivement, c'est un bon point de savoir comment remplir le papier médical. Ouais.
Merci beaucoup, messieurs.
Il faut vraiment spécifier exactement la façon que c'est pour l'emploi. Donc, c'est ça, exactement.
Exact.
Je vous laisse, sinon j'aurai plus de temps avec François Allard, mais merci beaucoup d'avoir été là, Michael Dulin et Alain Tremblay.